La musique est de retour.
Salut à tous et salut à toutes.
Oh.
Bienvenue à ce Musicorama assez génial.
Close up, take snap, hold up, take snap.
Oh, ok, vous ne faites pas d'erreur. Vous êtes bien connectés sur la radio sans concession.
Now in darkness, world stops turning. Ashes where the body's burning.
L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio.
I'm talking to you. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Bonjour et bienvenue sur Décibel, l'émission qui vous éduque. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui au programme nous parlerons de classe un peu spéciale, école démocratique, puis un petit tour dans le monde, mais aussi YouTube et une petite dédicace à nos chers professeurs. Pour cela nous sommes accompagnés de Shruti,
coucou,
de Charlie,
salut,
de Laura,
salut,
de Méliana,
coucou,
et de Charlotte.
Bonsoir.
Commençons avec Shruti qui va nous faire un peu voyager.
Oui.
Je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir.
Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier.
Maman, j'ai rien oublié.
Ton goûter.
Bon, bah les filles... J'avoue que je ne connais pas trop les modes d'apprentissage dits alternatifs. Perso, j'ai été scolarisée dans deux pays et donc j'ai connu deux systèmes scolaires publics. Et j'avoue que, étant carrément faite pour des études, ces deux systèmes m'ont convenu très bien, donc je ne les ai jamais remis en question. Mais en faisant des recherches, en fait, je suis tombée sur une histoire qui est assez dingue, celle de Émile Lemaine. Professeur des écoles en France avec un parcours curieux, en 2016, Émile décide de partir faire un tour du monde afin de découvrir des systèmes scolaires alternatifs, c'est-à-dire en dehors du cadre restrictif des écoles publiques privées qui existent dans le monde. Et pendant 7 mois, il traverse 10 pays et découvre 18 écoles dont les pédagogies lui ont semblé innovantes. Bah, je me suis demandé pourquoi, donc il explique. Selon lui, et je le cite, l'idéal éducatif défendu par les États et les organisations internationales, mais aussi les médias et les parents eux-mêmes, c'est celui de la performance. Performance pour n'a pour seule fin que d'augmenter la productivité et donc la compétitivité des États. Ce qui explique le fait que ceux et celles qui ne parviennent pas à être performants dès leur plus jeune âge sont relégués et souvent sans possibilité d'en ressortir à des filières avec de faibles perspectives, les classes SECPA, les classes ULIS ou encore des différents cap et bac au lycée. L'inégalité des classes sociales donc se creuse déjà à ce niveau-là. Et donc pendant ce voyage, Émile est allé à la rencontre des écoles comme l'école Waldorf en Allemagne, où il découvre un modèle d'apprentissage qui est diversifié, aussi bien dans les domaines académiques qu'artistiques, manuels et sportifs. Tamariki, une école en Nouvelle-Zélande qui fait l'expérience de la démocratie directe et du libre choix de l'apprentissage des enfants. ou encore l'Académie Vaudran au Québec, qui propose entre autres des programmes innovants basés sur la neuroplasticité pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage sévères, et ce, avec de très bons résultats. Et de ces découvertes, Émile a constaté que les systèmes scolaires basés sur la productivité et la compétitivité, finalement, n'apprennent pas à être libres, empathiques, critiques, coopératifs, à s'aimer et à aimer les autres et la nature. Et que, pour un avenir plus respectueux de l'égalité sociale et environnementale, le système scolaire traditionnel a besoin d'être mis en question. Je vous invite donc à consulter le livre de Émile Lemaine, Mon tour du monde des pédagogies alternatives, pour en savoir plus sur ses aventures. Et en parlant de ces systèmes démocratiques, je pense que Margot a fait une découverte assez chouette aussi.
Je suis grand, je m'en vais à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire, je vais comprendre, rire et bien grandir.
Je prends mon cartable, je prends mes crayons, je prends mon cahier, je prends mon goûter.
J'ai rien oublié.
Tes chaussures.
Alors oui, exactement. Alors il s'agit de Cécile Carpentier, directrice de l'École de la Liberté, qui est une école démocratique se situant à Berlaymont dans l'Avesnois, dans les Hauts-de-France. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le concept de votre école ?
L'école démocratique, c'est une école qui accueille un peu tout type d'élèves. En général, c'est quand même des élèves qui ont plus de difficultés à suivre dans une école classique. Alors, ou alors c'est un problème de lenteur, ou alors c'est un problème des multidis, ou voilà.
Depuis combien de temps ça existe ?
Alors, l'école est ouverte depuis novembre 2019.
Est-ce qu'il existe d'autres écoles dans les Hauts-de-France ?
Alors, il y a une école démocratique à Lille et il y a une autre école pour les plus petits qui a ouvert à Priche en septembre de cette année, me semble-t-il.
Quels sont les avantages et éventuellement les inconvénients de votre école ?
Toutes les écoles ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, l'avantage dans mon école, c'est surtout lié au temps. Déjà, les enfants peuvent choisir d'arriver entre 8h30 et 10h. Donc déjà, pour certains enfants qui ont des problèmes de sommeil, ça peut aider. C'est pareil, le soir, ils peuvent repartir à partir de 16h30 jusqu'à 17h30. Donc c'est vraiment une flexibilité dans le temps.
Cette école est-elle reconnue par l'Éducation nationale ?
Oui, c'est une école qui a été reconnue par l'Éducation nationale. Il y a les trois niveaux, les niveaux primaire, collège et lycée.
Et du coup, combien d'élèves avez-vous au sein de votre école ?
Alors actuellement, on a 18 élèves.
Et dans quel intervalle d'âge ils sont ?
De 4 ans à 16 ans.
Quels sont les cours que vous proposez et comment sont-ils organisés ?
Les cours qu'on propose, c'est les cours de l'Éducation nationale. En fait, on a français, maths, physique, anglais, histoire-géographie, sport, SVT, auxquels on rajoute ce que les élèves aiment bien. Donc actuellement, on a des cours de danse, on a le langage des signes français, on a des cours de japonais. Et c'est les élèves qui ont l'idée d'apprendre cela. Et c'est fait sous forme d'atelier. Alors, ou alors, on demande à un professionnel de venir nous enseigner cette matière, ou alors, c'est les recherches des élèves.
Et du coup, ces professeurs, ils sont assez renommés ou c'est des intervenants extérieurs qui viennent donner cours ?
Souvent, ceux qui viennent bénévolement, ils viennent pour transmettre une passion. On a un professeur de danse qui vient nous aider et transmettre sa passion de la danse. On a aussi quelqu'un qui vient nous aider et nous enseigne la calligraphie.
Comment sont notés les élèves ?
Il n'y a pas de notes. Les élèves, on voit leur progression par rapport aux ateliers qui sont créés et par rapport à la réussite à leur exercice. Mais il n'y a pas de notes formelles, okay. C'est que de l'informel.
D'accord, et du coup, ils passent d'un niveau à l'autre selon leur capacité.
Voilà.
Et est-ce que du coup, les parents aussi participent à cette éducation ?
Oui, il faut que ce soit partagé par les parents, parce qu'un parent qui ne croit pas en ce type d'école, ça va être compliqué.
Comment fait-on du coup pour s'inscrire ?
Il faut téléphoner ou regarder sur le site de l'école. Après, il y a une période d'essai de 15 jours, parce que c'est assez différent des écoles classiques. Donc, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Le fait qu'il y ait pas de notes, le fait qu'il y ait pas de cours toutes les heures, on fonctionne seulement sous forme d'atelier. Donc, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on propose une période de 15 jours d'essai.
Les ateliers, ils sont organisés par petit nombre ou par...
En fait, on fait des ateliers de niveau plutôt des ateliers d'âge. Et c'est surtout en fonction des difficultés des enfants. Ça veut dire qu'un élève de 12 ans peut se retrouver avec un élève de 14 ans ou 8 ans. Peu importe, c'est vraiment par rapport au niveau.
Si les écoles ferment à nouveau, est-ce que vous êtes aussi concerné par ces mesures ?
Certainement.
Petite dernière question pour terminer cette interview. Comment du coup fait-on pour vous contacter si vous avez un numéro ou une adresse à faire partager
L'adresse c'est écoledelaliberté@yahoo.com et le numéro de téléphone c'est le mien, c'est le 06 49 66 40 86.
Alors comme vous avez pu l'entendre, elle nous parle des multidis. Alors les multidis sont les personnes qui sont dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques, dyscalculaties, en gros tous les handicaps commençant par 10. Alors Charlie, toi tu vas nous parler de cham, chat et chat. De...
Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école, sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire, je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons.
Alors les classes CHAM, CHAD ou CHAT, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, souvent on connaît CHAM, c'est des classes à horaires aménagés musique, danse ou théâtre. Ça a été créé dans les années 1975, c'est une convention entre le ministre de la Culture et celui de l'Éducation nationale. Et donc le but de ces classes est d'avoir une formation vraiment spécifique dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre, tout en gardant la formation générale que tout enfant, tout adolescent doit avoir. Et donc ces classes, ça permet d'avoir un vrai équilibre entre à la fois le parcours scolaire et les activités artistiques qui parfois sont pas possibles pour certains parents parce que c'est tard le soir, parce que l'élève a peut-être un peu du mal à l'école, donc il peut pas se permettre de faire ça. Et là, grâce à ces classes, il va pouvoir s'ouvrir à l'art, que ce soit la musique, la danse ou le théâtre. Ça va encourager l'autonomie de l'élève parce qu'il va avoir beaucoup de choses à faire en avance, mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui vont pouvoir se libérer d'une certaine timidité ou... tout simplement découvrir une passion. Et donc ça s'organise de façon à ce qu'en primaire, il y a environ 3 heures dédiées à l'art par semaine et 7 heures au collège environ. Et il y a d'autres exceptions comme l'Opéra de Paris, où il y a aussi les Ballets du Nord à Lille, ou le Conservatoire supérieur de musique, enfin de grands organismes comme ça, où c'est plus un temps partiel, parce qu'il y a plus une visée professionnelle. Et pour intégrer ces classes, il n'y a aucune chose demandée, tout le monde peut y entrer. Mais il y a quand même une petite audition en primaire où ils demandent de voir comment l'élève réagit, s'il a une certaine écoute, s'il est un peu attentionné et surtout s'il est motivé. Si l'élève est motivé, il a de très grandes chances qu'il soit pris. Par contre, au niveau collège, il est plus fortement recommandé que d'avoir quelques bases, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre, parce que c'est d'autres qui ont fait ça depuis le primaire, ça va être un peu compliqué pour eux. Et sachant que ces parcours, certains vont dire oui, c'est parce qu'on veut faire musicien, danseur ou comédien, mais pas du tout. La plupart des cas, certains vont se diriger vers l'art, mais d'autres vont aller dans toute autre filière. Alors maintenant, il n'y a plus de filière, mais ils pouvaient aller dans ce qu'on appelle les littéraires, scientifiques, technologiques, professionnels, peu importe. Et pour mieux découvrir, si vous voulez, notamment le chat, donc pour le théâtre, il y a eu un reportage réalisé par PFM qui, justement, est allé découvrir le chat à Marie Curie à Arras. Je vous propose maintenant d'écouter, en lien toujours avec l'éducation, Another Brick in the Wall de Pink Floyd. No dark side. Vous êtes toujours sur PFM 99.9 dans l'émission Décibel. Grâce aux nouvelles technologies, nous avons une façon différente pour apprendre, n'est-ce pas Méliana ?
Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Si j'ai décidé de vous parler de ce poème ce soir, si j'ai décidé de vous réciter ce poème de Jacques Prévert, c'est tout simplement parce que c'est un chef-d'œuvre, mais aussi parce qu'il fait tellement écho à la réalité. C'est un poème qui fait écho aussi à l'actualité. Quel étudiant aujourd'hui n'est pas devenu un cancre ? Même les bons élèves décrochent. Nous sommes dans une situation alarmante. Je répète, nous sommes dans une situation alarmante, il faut bien le dire. J'avais envie de profiter de cette émission spéciale éducation pour qu'on se souvienne de la situation catastrophique des étudiants. Aujourd'hui, je vous le dis, sans YouTube, je n'apprendrai plus rien. Le néant, l'obscurité intellectuelle. Parce que YouTube permet d'apprendre. Bon, oui, YouTube, ça permet d'apprendre des choses quand même, hein, des choses concrètes et des choses utiles. Ok, ça passe par les tutos pour apprendre à cuire des pâtes. Ok, on peut trouver aussi des tutos pour réussir à faire son trait d'eyeliner. Je le reconnais. YouTube regorge de conseils éclairants. À côté de ça, aujourd'hui, on parle d'apprentissage, d'éducation. Alors, bien sûr, on peut trouver des futilités sur YouTube, mais on peut également trouver des moyens pour se réconcilier avec des matières plus complexes. Je vais vous donner quelques exemples. Sur la chaîne Poisson Fécond, vous pouvez développer votre réflexion. Sur la chaîne L'Antisèche, il est également possible de réviser son bac pour l'histoire. Personnellement, c'est grâce à la chaîne YouTube Le Précepteur que je me suis intéressée à la philosophie, puisqu'il a réussi à démocratiser cette discipline qui me paraissait tellement compliquée. Bref, grâce aux nouvelles technologies, c'est bien plus facile d'être autodidacte.
Exactement. Et toi, Laura, tu es plus prof virtuel ou réel ?
Salut, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole ? Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures, je prends mon bonnet. Je prends mon manteau.
Maman, j'ai rien oublié ?
Non, dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, 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 allez !
Vite, vite, oh vite, 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 maman, vite, 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 à l'école, vite !
Bon, bah moi je voulais vous parler de la représentation des profs et des élèves dans les films, les séries versus la réalité. Bon, je vais vous éviter Dora et compagnie, je vous rassure. Les élèves, outre leur petite problématique personnelle, on constate que ce sont de gros clichés. Bah le pire c'est que ces élèves, bah on les retrouve dans la réalité. Il y a toujours une intello, un gars qui n'en a mais vraiment rien à foutre. L'autre, là, qui s'est cru en cours de techno H24 et qui fait des avions en papier les plus aérodynamiques possibles. Celui, celle, qui est toujours en retard, auquel j'appartiens. Une référence, bah, dans du cobu, vous avez Gratin, c'est l'intello de service. Et bah, allez jeter un œil au petit Nicolas, vous verrez que les clichés sont bien représentés. Du côté des profs, qui ne s'est pas déjà dit « Si seulement j'avais eu un ou une prof comme ça ?» Bon. Vous avez déjà vu le film Les Profs ici ?
Yep.
Non.
Non.
Bon, franchement, peut-être qu'ils sont un peu poussés à l'extrême, ces personnages, mais ô combien réalistes. Bah quoi ? Bien sûr que ça existe, les profs qui balancent des cris à travers la salle. Moi, mon prof de maths au collège, il nous faisait faire des pompes au lieu de nous mettre au coin. Désolé pour les autres, hein, mais il y a un copyright, hein, vous ne pourrez pas l'appliquer sur vos élèves. Et puis, bah, y a la série Sam aussi en ce moment. Et bah, ça montre bien que, en salle des profs, c'est une vraie cour de récréation. Bon, j'ai envie de vous dire, peut-être que le meilleur des films, finalement, bah, c'est la réalité. Il ne s'agit pas d'apprendre à vivre ou de vivre pour apprendre, mais de penser et de prendre en compte les enseignements que la vie vous offre. Et d'assumer plus ou moins bien le métier aussi. Parce que bah, moi, je pense qu'au fond, on est tous un peu le prof de quelqu'un et on apprend de tout le monde.
Ça, c'est sûr. Hein. Allons, terminons avec notre petite dose d'humour noir quotidienne dédiée à nos professeurs avec Charlotte.
Et oui, le thème de l'émission de ce soir, c'est d'apprendre autrement. Ce n'est pas étonnant qu'on voudrait apprendre différemment quand on voit la tronche de certains professeurs. On va mettre les pieds direct dans le plat, hein. L'un des préjugés sur les profs les plus connus est qu'ils ne foutent rien. Eh bien, nous pouvons dire que c'est vrai. Ils sont en vacances la moitié de l'année, c'est ceux d'être fonctionnaires de l'État. Quand ils ne sont pas en vacances, ils sont absents. Et quand ils ne sont pas absents, ils sont en grève. Alors, en grève pour augmenter les portions sur leur fiche de paye ou à la cantine, ça reste à voir. Et puis ce n'est pas à nous qui vont faire croire qu'ils ont du travail à la maison, les copies à corriger, la note, on sait très bien qu'elle se décide selon le score aux fléchettes. Bah, c'est vrai qu'il faut se le dire, hein, c'est un boulot peinard, bien payé. Allez, peut-être le plus dur, c'est la première année que vous débutez. Là, il faut quand même préparer un minimum, quelque chose pour dire d'avoir un truc devant les merdeux d'élèves. Puis vous reprenez les mêmes fiches les années suivantes, vous êtes tranquille, n'oubliez surtout pas de changer la date. En évoquant les peinards, on pourrait peut-être parler aussi des profs de la fac, toujours là, costard, cravate, syndicaliste, et ramener chaque sujet à la politique, et entre autres, nous balancer un cours qu'on comprend à peine. Ce qui m'a toujours intriguée, c'est que pour la plupart, au moins un livre à leur nom, au compteur, et qu'il faut acheter à tous les étudiants. Et après, ça nous sort que le livre se vend bien. Enfin, tu m'étonnes, t'as vu le nombre d'étudiants aussi ? Bref, le plus marquant, c'est aussi... les profs d'informatique, et encore, je dirais plus, les profs de sport. Ils vont t'expliquer comment marquer un panier au basket sans te le montrer, physiquement. Et pareil, ils vont te dire de rattraper telle barre à la gym, sans jamais non plus te montrer comment cela se passe réellement. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas le faire, tout simplement. Véridique que la plupart des profs de sport ressemblent à tout, sauf à un grand sportif. On a parfois du mal à s'imaginer qu'ils arrivent à faire 200 mètres en courant. Bon, faut pas s'inquiéter non plus s'ils sont essoufflés ou qu'ils ont se sont foulés la cheville, il y a toujours l'infirmerie à côté. Ça vaut pour les élèves, mais aussi pour les profs. Un sucre et ça repart. Bon, ce qui peut peut-être induire en erreur pour le prof de PS, c'est le fait qu'ils passent toute leur journée en survêtement. Le même, tous les jours. Bon, vous me direz, niveau transpiration, odeur, il n'y a pas trop de risques, il n'en faut rien. Niveau vestimentaire aussi, on peut parler des profs des étés, ça vaut le détour. Ils ne connaissent rien d'autre que les vêtements de la célèbre enseigne de magasins de sport. Comme si c'était une tradition de profs de se refiler ces vieux caouets, leurs manteaux, matière, sac poubelle. C'est vrai qu'ils avaient tous, faut le dire, pour la plupart, un côté sado en nous donnant je ne sais quelle bestiole à disséquer. Bon, c'est comme le prof d'art plastique, hein. On le remarque aussi de loin, souvent la chemise très colorée, entrouverte, un peu artistique, afin de montrer qu'il a l'art dans l'âme et dans la peau. Toujours anticonformiste aussi. Mais cela montre surtout sa vocation ratée quand peut-il rêver de devenir Picasso et se retrouver prof. Bon, après, niveau caractéristique, on en retrouve certains pour chaque prof. Hein. On imagine toujours le prof d'histoire avec un gilet en laine, sa coche en cuir et mocassin. Eh bien, ils ont toujours été comme ça. À mon avis, ils ont étudié la période médiévale et ils ont fait un blocage sur ça. Hein. Il y a aussi le prof de philo qui déraille et part à droite, à gauche. À partir de ce moment-là, tu es en droit de te demander s'il fume autre chose que du tabac. Et comme dirait Charlie, il ne doit plus rester beaucoup de moquettes chez lui. Ah, il y a aussi les profs d'anglais qui se croient bilingues et avec un niveau très élevé, alors qu'en vrai, ils parlent anglais comme une vache espagnole. Et c'est souvent la première de la classe qui aura bientôt un meilleur accent qu'eux. Après, nous avons aussi les bons vieux profs de français. On les imagine bien, ceux-là, un peu grochons. Ne leur dites surtout pas que vous lisez des BD ou je ne sais quel livre. Si ce n'est pas du Balzac, votre lecture ne sert à rien. Bon, il y a au moins un domaine où les profs de français excellent, hein, c'est le Scrabble. Imaginez maintenant tout ce bétail réuni dans une cour. Non, non, je parle pas de la cour de récréation, mais bien de la salle des profs. Mais si ça vous est déjà arrivé de déposer une copie en retard et de rentrer dans cette salle, vous les voyez café à la main en train de discuter de la nouvelle conquête du prof de physique. Et puis c'est sûr, vous avez toujours la prof d'anglais assise, jambes entrecroisées sur le coin d'une table en train d'aguicher le prof de maths.
Y'a comme un goût de foulec chez les mots, comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non.
Alors merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine dans la joie et dans la bonne humeur et on finit avec une petite chanson.
C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. La plastique c'est fantastique et la musique c'est trop magique. Les cours de maths mènent la patate et en anglais je mets une cravate. C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. À la cantine on mange des tartines et des mandarines et des sardines. On se jette du pain entre copains et on fait beaucoup les zinzins. C'est la chanson de l'école, là où on mange nos tubes de colle. On y chante comme des casseroles, surtout en heure de colle. Ma prof de français passe le balai et ma prof d'SVT sans me chamouiller. Ma maîtresse et elle me stresse et c'est pour son nom comme ma maîtresse. Ma directrice s'appelle Anaïs et elle mange de la saucisse et du maïs.